Radio Prague, les informations. Bonjour, affaire de l'alcool frelaté. La Commission européenne a indiqué être au courant de la volonté du gouvernement d'assouplir les mesures de prohibition. La diplomatie tchèque a critiqué le déroulement non démocratique des élections législatives en Biélorussie. Et puis enfin, prix des cigarettes, la hausse de la taxe sur la consommation a été adoptée par les députés. Comme indiqué en titre, la Commission européenne a fait savoir qu'elle était informée de la volonté du gouvernement tchèque d'atténuer les mesures d'interdiction de vente et de distribution des spiritueux dont le taux d'alcool est supérieur à 20%. Selon le porte-parole de la Commission, le gouvernement tchèque a le droit, d'un point de vue juridique, de prendre une telle décision. Il a toutefois précisé que la Commission et les autorités tchèques s'étaient entendues en début de semaine pour que toute nouvelle mesure prise par le gouvernement soit préalablement consultée avec Bruxelles. Une décision devrait être prise par le gouvernement ce mercredi soir ou jeudi. La prohibition sur les alcools forts en République tchèque est, rappelons-le, appliquée depuis près de deux semaines, et ce en réaction aux nombreuses intoxications qui ont fait suite à la consommation de spiritueux frelatés au méthanol. 26 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été hospitalisées depuis le début de l'affaire. Le ministère des Affaires étrangères a critiqué les élections législatives qui se sont déroulées dimanche dernier en Biélorussie. Dans un communiqué, la diplomatie tchèque a déploré le déroulement non démocratique du scrutin, dont les résultats ont permis au président Alexandre Loukachenko d'accentuer son emprise sur le Parlement. Si d'après Moscou, ces élections législatives ont été, je cite, « libres et transparentes », elles ont en revanche été dénoncées par les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Celle-ci estime que le scrutin n'a pas été équitable, en raison notamment de l'emprisonnement de certains chefs de file de l'opposition. Le ministère tchèque des Affaires étrangères partage cette opinion et appelle les autorités biélorusses à harmoniser le processus électoral avec les standards internationaux. La Chambre des députés a adopté ce mercredi le projet relatif à l'augmentation de la taxe sur la consommation des cigarettes et autres produits du tabac. D'ici à 2014, le prix moyen d'un paquet de cigarettes en République tchèque devrait ainsi augmenter d'environ 4 couronnes, soit 16 centimes d'euros avec d'abord 2 couronnes. À partir de 2013, l'adoption de cette mesure est une réaction à une exigence de l'Union européenne qui souhaite que les assises sur le tabac, c'est-à-dire les taxes perçues sur la consommation, représentent au moins 60% du prix moyen du paquet de 20 cigarettes et 90 euros pour 1000 cigarettes. Les chaînes de télévision privées vont très probablement être tenues de verser au moins 150 millions de couronnes, soit environ 6 millions d'euros, à partir de l'année prochaine au Fonds national pour le soutien et le développement du cinéma tchèque. Les députés ont en effet approuvé ce mercredi l'amendement à la loi sur le soutien à la production cinématographique allant dans ce sens. Cette contribution équivaut à environ 2% du montant du chiffre d'affaires réalisé sur la diffusion des spots publicitaires par les chaînes privées. Cet amendement s'inscrit dans le cadre plus large de la prochaine mise en place d'un ensemble de nouvelles mesures législatives devant permettre au cinéma tchèque d'être plus compétitif sur le marché européen. Orji Mapanenko, Au feu les pompiers, dernier film réalisé en Tchécoslovaquie par Miloš Zeman, sera projeté pour la première fois ce mercredi dans une salle pragoise, dans sa version restaurée, présentée au Festival international de Karlovy Vary en juillet dernier. 35 ans après sa sortie en 1967, il s'agit là d'une copie numérisée d'un film considéré comme une des œuvres majeures de la nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque dans les années 1960. Au feu les pompiers est le deuxième film d'une liste longue de 200 titres à avoir fait l'objet d'une restauration. Le premier avait été Markéta Lazarova, désigné par les critiques comme le meilleur film de l'histoire du cinéma tchèque. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable qui règne ce jeudi, jour de la fête des Yonash. Des nuages sont plus nombreux dans la moitié ouest et peuvent entraîner quelques averses passagères. En Moravie, le soleil est très présent dans la matinée avant que le ciel se voile progressivement au fil de la journée. Les températures sont en légère baisse et vont de 15 degrés dans l'extrême nord du pays à 24 degrés dans la pointe est. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Tout de suite, retrouver Anna Kubishta pour la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Dans les faits et événements de ce jour, on reviendra sur le discours du président Klaus à l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours où il a fustigé les velléités d'ingérence internationale dans la résolution des conflits dans le monde. Les deux veuves, tel est le nom d'un opéra méconnu de Bedřich Smetana, méconnu surtout en France où il va être donné à Angers et à Nantes. Tout ceci, ce sera avant la rubrique historique. Bonne écoute de ce programme. Dans son discours prononcé mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président tchèque Václav Klaus a mis en cause les succès de diverses missions internationales et d'équipes de médiateurs envoyées par l'ONU dans des régions en conflit. Le président tchèque est convaincu que ces problèmes doivent être résolus avant tout par des représentants locaux et que la communauté internationale ne doit pas imposer ses solutions aux parties belligérantes. Václav Richter.
En parlant de divers conflits dans le monde, le président a évoqué la partition de la Tchécoslovaquie en 1993. C'était, selon ses paroles, une situation émotionnellement tendue et douloureuse, et pourtant les hommes politiques des deux partis étaient convaincus que le problème ne pourrait être résolu que par la voie pacifique. Et c'était les négociations difficiles menées exclusivement par des dirigeants tchèques et slovaques qui ont abouti, selon Václav Klaus, à un arrangement considéré encore aujourd'hui par les hommes politiques et les citoyens comme une solution positive du problème. Le président considère cette expérience comme une confirmation du fait que ce sont les représentants et les médiateurs locaux qui doivent être la force motrice des négociations et non pas des équipes de médiation internationale et d'anciennes célébrités politiques. Il applique cette idée aussi sur la situation internationale actuelle.
Buďme upřímní sami k sobě, považujeme.
Et soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Considérons-nous les solutions trouvées aux situations en Irak, à Chypre, au Kosovo, comme une victoire de l'ONU? Est-ce un succès ou comment faut-il évaluer ces résultats?
Il faut se demander toujours, selon Václav Klaus, si l'intervention de l'extérieur améliorera ou aggravera la situation en bloquant les processus spontanés qui pourraient rétablir la stabilité dans la région de conflit. Le président de citer dans ce contexte la Syrie, qui est à son avis un exemple de cette ingérence partielle de la communauté internationale dans le conflit intérieur d'un pays.
Je n'arrive tout simplement pas à imaginer que des habitants isolés de Syrie puissent affronter l'armée gouvernementale. Comment se battraient-ils? Avec quels moyens? C'est impossible. S'ils luttent contre l'armée, ils déploient un armement lourd, et s'ils disposent d'un armement lourd, ce n'est pas un petit groupe d'habitants qui protestent. Je parlerai de la Syrie donc d'une façon un peu plus sérieuse.
Et Václav Klaus exhorte la communauté internationale à considérer la situation en Syrie dans une perspective plus large et plus longue et à tirer leçon de la récente intervention militaire en Libye qui a démontré clairement à son avis qu'il n'est pas possible de parvenir à un règlement stable par la force militaire.
Je considère comme condition du succès que l'ONU aborde ce conflit d'une façon absolument désintéressée, comme un conflit où il n'y a pas de bons et de méchants que nous désignerions d'avance. Il faut que l'ONU cherche vraiment à apporter une solution impartiale aux problèmes existants aujourd'hui en Syrie et non pas à adopter une solution qui plairait à l'un ou à l'autre membre de la communauté internationale.
Nous devons donc œuvrer surtout, selon Václav Klaus, pour aider les simples citoyens frappés par la situation en Syrie. La République tchèque a déjà envoyé une aide humanitaire aux Syriens qui se sont réfugiés dans les pays voisins et a créé le programme médical d'évacuation pour les réfugiés syriens blessés. Et le président de promettre que la République tchèque continuera, malgré ses objections, à participer aux opérations et aux programmes d'aide humanitaire et de développement de l'ONU. Elle soutiendra également les initiatives visant à la réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité pour réagir à l'évolution internationale et parvenir à une représentation plus équilibrée des régions et des États dans cette institution.
L'opéra de Bedřich Smetana, Les deux veuves, va être présenté à Angers et Nantes, et ce pour la toute première fois en France. C'est vendredi 28 septembre que doit avoir lieu la première à Angers de cet opéra, mise en scène par la Britannique Jo Davis. Pour évoquer cette comédie lyrique de Smetana, je me suis entretenue avec Jean-Paul Davoy, directeur d'Angers Nantes Opéra. On l'écoute.
On est toujours à la recherche, évidemment, d'œuvres intéressantes et quelquefois, ou autant que possible, d'œuvres rares. Il y a toujours cette recherche d'essayer de faire découvrir des œuvres inconnues, soit parce qu'elles n'ont pas encore été créées, donc des œuvres contemporaines, soit parce qu'elles ont été oubliées, des œuvres très anciennes. Et dans le cas des deux veuves, c'est vrai que curieusement, c'est un opéra qui n'avait jamais été joué en France.
Alors c'est intéressant parce que j'ai lu que cet opéra de Bedřich Smetana, donc Les deux veuves, s'est inspiré, enfin le compositeur s'est inspiré d'une pièce française.
D'une pièce française, absolument. Enfin c'est plus qu'inspiré, hein. C'est le livret a été écrit d'après une pièce d'un auteur français un peu oublié de nos jours qui s'appelle Pierre-Jean-Félicien Malfille, qui est une pièce qui s'appelle Les deux veuves.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce? Comment est-ce que vous, enfin, dans cet opéra, comment est-ce que vous pourriez un petit peu le caractériser pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas?
C'est une comédie. Dans une saison, vous imaginez, on choisit d'essayer de faire une alternance, même si on n'y arrive pas toujours, et que ce ne soit pas toujours des tragédies ou des drames épouvantables, comme c'est souvent le cas à l'opéra. Et la musique est tout à fait intéressante. Moi, je ne connaissais pas cette œuvre avant de l'écouter pour la première fois, puisque je ne l'ai jamais jouée en France. Et j'ai découvert une partition d'une musique qui a été une découverte pour moi aussi. Je connaissais évidemment La fiancée vendue, qui est l'opéra de Smetana qu'on joue le plus souvent en France, même si on ne joue pas très souvent, mais c'est celui qu'on joue assez régulièrement. Et là, c'est une musique qui n'est pas difficile, donc ça m'intéressait un peu au début de saison. C'est jamais le moment où on programme la musique contemporaine ou la musique un peu plus compliquée. Voilà. Et c'est une musique charmante. Voilà. L'œuvre, en tout cas, est charmante.
On sait que Smetana était un ardent défenseur de l'identité tchèque. Est-ce
oui.
qu'on retrouve cet aspect-là dans cet opéra?
Non, je ne peux pas vous dire ça. Alors, on le chante en tchèque, évidemment. Ça n'aurait pas de sens. De toute façon, tous les opéras sont chantés en langue originale, à quelques exceptions. On ne va pas retrouver ça, puisque la metteur en scène, Jo Davis, elle situe plutôt ça, même si, en réalité, il n'y a pas d'éléments qui permettent de reconnaître précisément où et quand ça se passe. Mais elle situe plutôt ça après la dernière guerre, en France, après la dernière guerre. Puisque, au départ, on a deux veuves. Rien ne dit dans le livret pourquoi elles sont veuves. Et elle, ça lui paraissait important de situer ça juste après la guerre pour qu'on comprenne que les deux maris qui sont décédés sont morts pendant la guerre. Ce qui explique que l'une des deux veuves reste, ou tient absolument à rester, très fidèle à la mémoire de son mari, qui est du coup un héros.
Vous ne vous contentez pas de présenter les deux veuves, mais il y a également tout un programme annexe autour de Smetana pour mieux faire découvrir ce compositeur au public. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots également?
C'est pas seulement pour faire découvrir Smetana au public, hein. C'est d'une façon générale, ici, on pratique une discipline qu'on appelle en France l'action culturelle, qui est, pour le résumer deux mots, permettre l'accès à la culture, en l'occurrence l'opéra, au plus grand nombre. Il y a des gens qui ne connaissent pas Smetana, mais qui ne connaissent pas forcément non plus l'opéra en général. Donc il y a toute une série d'actions diverses, beaucoup en milieu scolaire, avec les collégiens et les lycéens notamment, parce que c'est le public de demain, mais pas seulement. Il y a aussi des rencontres avec le public dans différents... on va interpréter avec le Quatuor Ligère, qui est un quatuor de Nantes. On va interpréter l'Équateur de Smetana dans plusieurs lieux d'Angers et de Nantes. Puis toute une série d'actions, de rencontres avec les chanteurs, avec la metteur en scène, avec le chef d'orchestre, etc. C'est notre quotidien et on fait ça sur toutes les productions d'opéra.
L'opéra Les deux veuves sera donné à Angers les 28 et 30 septembre et à Nantes les 17, 19, 21, 23 et 24 octobre. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Alors que les Tchèques s'apprêtent à fêter leur saint patron, le martyr Saint Wenceslas, Radio Prague a choisi de revenir sur l'histoire de la place qui porte son nom à Prague. Cette place aux allures d'avenue et aux dimensions exceptionnelles est l'un des symboles de la ville et a constitué un théâtre majeur et récurrent de l'histoire contemporaine tchèque, du renouveau patriotique du 19e siècle aux manifestations qui emportèrent le régime communiste en 1989. Cette rubrique historique a été préparée pour vous par Pierre Ménian.
Chapitre de l'histoire. En novembre 1989, une foule compacte acclame Václav Havel, puis entame les hymnes tchèques et slovaques à l'unisson avec Karel Gott, chanteur très populaire quel que soit le régime politique, et Karel Krill, chanteur exilé de la Tchécoslovaquie communiste depuis 20 ans. Les deux artistes chantent depuis le balcon de l'imposant bâtiment du Musée National qui domine la place Venceslas, Václavské náměstí, depuis 1840. C'est la fin de la dictature et, espère-t-on, le début de la démocratie. Cette fameuse place, la place Venceslas, a été une fois de plus l'une des scènes et peut-être un acteur des événements qui ont marqué l'histoire tchèque. Au cœur de la nouvelle ville, ses dimensions spectaculaires, 750 mètres de long sur 60 mètres de large, lui donnent un air d'avenue. Si elle s'est modernisée au niveau de la chaussée, le tramway n'y passe plus depuis 30 ans, elle garde le charme des bâtiments de style Art Nouveau qui la composent et accueille aujourd'hui des hordes de touristes qui s'y pressent le jour pour en découvrir les nombreuses boutiques et autres restaurants, pas toujours les meilleurs de Prague. Le soir, elle change de visage et devient le théâtre de menus débauches, offrant parfois l'hospitalité à la misère sociale. La fondation de la place remonte à 1348. Le roi de Bohême et empereur du Saint-Empire germanique, Charles IV, entreprend de remodeler sa capitale en créant plusieurs places adjacentes à la vieille ville qui constitueront les bases de la nouvelle ville. L'une d'entre elles est le marché aux chevaux, Koinskiter, situé au sud-est de la cité qui deviendra plus tard la place Venceslas. Il faut attendre le 19e siècle pour que le quartier s'urbanise et devienne un centre actif de la vie pragoise. Les pays tchèques, alors soumis à la couronne autrichienne, connaissent un renouveau culturel, un mouvement de renaissance nationale. Les élites cultivées promeuvent l'usage du tchèque et de la tchéquité, l'affirmation d'une identité tchèque. C'est dans ce contexte qu'ont lieu en 1848, dans de nombreux pays d'Europe, des révolutions à caractère nationaliste, en Italie, dans les pays allemands, en France, mais aussi au sein du très conservateur empire habsbourgeois. Si les troubles touchent principalement Vienne, ils arrivent également à Prague où quelques heurts éclatent en juin 1848. Si les retombées de ce printemps des peuples sont mitigées en Bohême, ils témoignent néanmoins de la ferveur nationaliste retrouvée de certains Tchèques, notamment sous l'égide de František Palacký. Plus tôt, lors d'un rassemblement mémorable dans les termes Saint Wenceslas, le 11 mars 1848, le patriote tchèque Karel Havlíček Borovský avait proposé que le marché aux chevaux devienne le marché Saint Wenceslas, peut-être en l'honneur de la statue équestre du même nom qui y trônait depuis 1680 et sûrement pour réaffirmer l'attachement de la nation tchèque à son saint patron Venceslas Ier, duc de Bohême au Xe siècle. Attardons-nous à un moment sur l'histoire de cette statue équestre qui trône devant le musée national et surplombe fièrement toute la place. La statue qu'il est actuellement possible d'admirer date de 1913 et est l'œuvre de Josef Václav Myslbek, l'instigateur de la sculpture tchèque moderne. Kateřina Kutanová Bednářová est spécialiste des statues du 19e siècle et nous apporte un éclairage sur le destin des statues équestres de Saint Wenceslas.
La première impulsion date des années 1870, bien que cela ne concerne pas encore Josef Václav Myslbek, puisque sur le marché aux chevaux, que l'on appelait encore de cette façon, même si la place est devenue la place Saint Wenceslas en 1848, la statue équestre, qui était l'œuvre de Jiří Bendl, a été enlevée et déplacée à Vyšehrad. Mais on s'est attaché au fait qu'il faudrait construire une nouvelle statue de Saint Wenceslas.
Staví nová socha svatého Václava.
Un appel d'offres est donc lancé en 1894 et sans surprise, c'est Joseph Václav Mieselbeck qui le remporte puisqu'il était le seul candidat. C'est devant sa statue, sur une place Venceslas qui ressemble alors à celle que nous connaissons, que l'écrivain tchèque Alois Jirásek prononce le 28 octobre 1918 la déclaration d'indépendance de la Tchécoslovaquie. Les pouvoirs étatiques seront utilisés, la puissance symbolique et évocatrice de la place. Aussi, quand les troupes allemandes occupent Prague le 15 mars 1939, elles défilent en rang sur la place Venceslas, un crève-cœur, sinon un cauchemar pour les Pragois qui assistent à cette scène. Le reporter de la radio tchécoslovaque, František Kocourek, est l'un d'eux et il l'observe d'un balcon de l'hôtel Schroubeck, qui est aujourd'hui le grand hôtel Europa, abasourdi l'appropriation d'un symbole qui signe la disparition de son pays.
Permettez-moi de faire une remarque autre que purement militaire. Venu d'une autre contrée, un grand corbeau noir pourrait survoler Prague, descendre et planer entre les deux extrémités de la place Venceslas, entre Muséum et Pluba Moustek, au milieu du bruit et des lumières des défenses de l'armée allemande. Il s'étonnerait sans doute de l'image qu'il lui est donné de voir.
Moustek, c'est la partie basse de la place Venceslas qui marque l'intersection avec deux artères importantes de la capitale et qui se prolonge vers la place de la vieille ville. Les communistes, renforcés par le rôle qu'ils ont joué pendant la Seconde Guerre mondiale, remportent plusieurs élections et renversent la Troisième République par le coup de Prague en 1948. Eux aussi vont s'approprier la place Venceslas, désormais constitutive de l'imaginaire collectif tchèque. L'historien Roman Krakowski s'est intéressé à l'histoire des célébrations du 1er mai, la fête des travailleurs. Il raconte au micro d'Antoine Hidler comment les autorités politiques ont transformé le statut de cette fête.
Le 1er mai est une fête partisane. Donc, je prends l'exemple de Prague, où les manifestations du 1er mai dans l'entre-deux-guerres se déroulaient sur la place de la République ou sur l'île aux tireurs. Et après 1948, le défilé s'installe sur la place Venceslas, qui est une place liée à l'histoire nationale. Et donc, pour moi, il s'agit très clairement d'une volonté du régime de transformer cette fête partisane en une fête nationale. La tribune du 1er mai est installée sur l'endroit qui s'appelle Moustek, donc en bas de la place, d'où le défilé s'offre à la vue.
La taille de la place Venceslas en fait ainsi un lieu propice à de rassemblements de masse qui peuvent marquer les esprits. Plus tard, sur cette même place, c'est un acte qui marquera les esprits. Après l'orthodoxie des années 1950, le régime communiste semble disposé à se réformer. Ces dispositions culminent en 1968 avec le printemps de Prague et la tentative de mettre en place un socialisme à visage humain. Les soviétiques et certains tchèques ne l'entendent pas ainsi et les troupes du pacte de Varsovie envahissent et occupent la Tchécoslovaquie à partir d'août 1968. Le processus de normalisation est engagé, tandis que l'écœurement et l'abattement prédominent parmi la population. C'est alors que le 16 janvier 1969, devant le musée national, un étudiant, Jan Palach, s'immole pour protester contre l'occupation. Une petite croix, symbole du sacrifice du jeune homme, est aujourd'hui incrustée à l'emplacement de son acte tragique. Les funérailles donnent l'occasion à un grand rassemblement silencieux sur la place. Deux mois plus tard, la sélection tchécoslovaque de hockey sur glace remporte le championnat du monde en dominant l'URSS. Plus de 100 000 personnes célèbrent la victoire sur la place Venceslas contre l'occupant, mais des violences éclatent, probablement le fait d'agents provocateurs. Le pouvoir utilisera ses troubles pour poursuivre la normalisation. 20 ans plus tard, en 1989, une semaine Palach se déroule à Prague. Plusieurs milliers de personnes se rassemblent sur la place où Václav Havel est arrêté, après avoir essayé de déposer une gerbe de fleurs en l'honneur de Palach. L'année sera longue pour les dirigeants communistes qui voient vaciller l'ensemble des démocraties populaires européennes et tomber le mur de Berlin le 9 novembre 1989. Sur la place Venceslas, des manifestations étudiantes ont lieu quotidiennement du 19 au 27 novembre. Les dirigeants communistes abandonnent le pouvoir le 28. C'est la révolution de velours. L'historienne Marie-Elisabeth Ducreux était présente ces jours-ci. Elle raconte l'atmosphère et l'optimisme des manifestations.
C'était pas très tard, mais il faisait déjà nuit, puisque c'était en novembre. Les taxis qui passaient dans les rues voisines, les chauffeurs de taxi faisaient lever de la victoire. Les magasins restaient ouverts, les vendeuses avaient le sourire aux lèvres. Tout le monde était absolument souriant, enthousiaste, quelque chose de très important se passait. Et très rapidement, on a compris, ceux qui étaient dans la foule comprenaient que le régime s'écroulait.
Aujourd'hui, la place est toujours un lieu de manifestation ou de rassemblement, parfois spontané, comme à la mort de Václav Havel en décembre dernier. Quid de Saint Venceslas ? Le moine bénédictin Ludwig Grundmann constate que la place s'est chargée d'une histoire qui l'a éloigné de la religion.
Il faut quand même reconnaître que la place de Saint Venceslas s'y prête par sa grandeur. Donc, je veux dire qu'il y a aussi le musée national avec notre petit panthéon. La statue de Saint Venceslas date du XIXe siècle, à l'époque où la religion était impliquée forcément d'une manière ou d'une autre. Je dirais, force est de constater que ça a pris une importance symbolique très vite et très tôt. Et donc maintenant, c'est plutôt une réminiscence des histoires qui s'y sont déjà passées, plutôt que directement lié avec Saint Venceslas. Je veux dire, le lieu est maintenant tellement chargé d'histoire que celui dont ce lieu porte le nom est, je dis pas mis à côté, mais il est moins présent, moins consciemment dans la tête de ceux qui vont manifester.
L'histoire de la place Venceslas se confond donc avec celle des Tchèques. Comme cette dernière, elle a été marquée par les années en 8, 1848, 1918, 1948, 1968, etc. Il faudra donc y porter un œil attentif en 2018.
C'est la fin de cette émission en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. En podcast, en streaming et également sous forme d'articles. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.